Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Donc je commence par la vocation du prophète Isaïe, au chapitre 6 du livre d'Isaïe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Tout-Puissant, sa gloire emplit toute la terre. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, « Dès lors que ceci a touché tes lèvres, ta faute est écartée, ton péché est effacé. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous ?» Et je dis, « Me voici, envoie-moi. » Seigneur, nous avons tous fait l'expérience de toi, peut-être pas de manière aussi forte qu'Isaïe, mais tu comptes sur nous aussi pour nous envoyer. Donne-nous de reconnaître que notre péché est pardonné et que tu as une mission pour chacun de nous. Et donne-nous la force de l'accomplir. Amen. Voilà, sans reprendre ce que j'ai dit la semaine dernière, je continue immédiatement sur le sens des malédictions. Donc nous étions dans les bénédictions et les malédictions conditionnelles. Quel est le sens de ces malédictions dans la Bible, qui sont d'ailleurs fréquentes? Les exégètes hésitent parfois à traduire les malédictions de l'Écriture par de véritables formules de malédiction, comme « malheur à vous » ou « maudit soyez-vous ». Ils les transforment en avertissements. Par exemple, Chouraki, dans sa traduction de l'Évangile de Saint-Luc, donc dans le discours dans la plaine, Saint-Luc énonce des béatitudes et des malédictions, hein, ce que Matthieu ne fait pas. Et Chouraki traduit les « malheur à vous les riches »,« malheur à vous qui riez maintenant » par « aïe, aïe vous les riches, aïe vous qui riez maintenant ». Donc on voit bien la dimension d'avertissement. Il ne s'écarte pas en faisant cela du sens biblique. D'autres adoucissent autrement la formule en la transformant en une sorte de constatation « malheureux êtes-vous ». Malheureux êtes-vous, vous les riches, malheureux êtes-vous, vous qui riez maintenant. Pourtant, comment nier que la formule comporte une certaine violence? Elle est comme le cri, qui apparaît violent, d'un homme qui voit son enfant courir vers la rue au moment où arrive une voiture. Arrête! Si la formule contient une malédiction, malheur à toi si tu continues. Celle-ci ne s'adresse pas à l'enfant comme enfant, mais à l'imprudent ou au sot qu'il se montre. « Tu es fou, arrête !» C'est ainsi que, pour saint Augustin, la malédiction s'adresse à l'incroyant qui est en nous. Il n'y a pas de méchanceté à vouloir que le pécheur, saint Paul dirait le vieil homme, soit voué à disparaître et donc soit maudit. Il me semble que c'est d'ailleurs ainsi que nous sommes invités à prier les psaumes de malédiction ou les versets de malédiction des psaumes. Il s'adresse au pécheur qui est en nous. Mais la violence de la formule peut s'expliquer aussi par la violence du mal auquel elle s'oppose. En effet, les bénédictions de Dieu ne sont pas annoncées dans un monde où tout va bien, mais dans un monde où le mal existant pousse chacun à se protéger plutôt qu'à chercher la justice, à s'assurer plutôt qu'à faire confiance à Dieu, à s'isoler plutôt qu'à prendre le risque d'entrer en relation. La xénophobie est une tentation de tous les temps. Et le malin se saisit de la crainte d'être malheureux pour pousser à faire le mal, donc renforcer ses mécanismes de repli sur soi, tandis que Dieu se sert de notre crainte d'être malheureux pour essayer de nous ramener vers le bien. Enfin, je voudrais signaler que pour saint Ignace de Loyola, le retraitant, dans la partie de la retraite où il s'expose à la miséricorde de Dieu, donc ce qu'on appelle en termes techniques la première semaine des exercices spirituels, donc le retraitant demande de ressentir ce qu'endure le pécheur séparé de Dieu. Donc c'est une grâce qu'il demande, de ressentir ce qu'endure le pécheur séparé de Dieu. Et j'ouvre les guillemets, « afin que, si j'en venais à oublier par mes fautes l'amour du Seigneur éternel, du moins la crainte des peines m'aide à ne pas tomber dans le péché. » C'est le numéro 65 des exercices. Donc c'est une grâce à demander de reconnaître ce qu'est la souffrance de quelqu'un qui laisse tomber Dieu, qui oublie Dieu, qui se détourne de lui. Et très justement, Ignace dit donc, afin que si j'en venais à oublier par mes fautes l'amour du Seigneur éternel. C'est évident que la morale doit partir toujours de l'amour de Dieu. Mais si jamais mes fautes m'aveuglaient, qui d'entre nous peut nier que ce soit possible, qu'il tombe dans la faute et que cette faute ne l'aveugle sur l'amour de Dieu? Je me souviens d'avoir rencontré des pénitents qui, heureusement, venaient se confesser, pouvaient recevoir une parole de miséricorde, mais qui étaient affolés de voir ce qu'ils avaient commis. Et ils en auraient oublié l'amour de Dieu s'ils n'avaient rencontré une parole de miséricorde. Mais donc les malédictions qui suivent le traité d'alliance s'expliquent plus aisément si elles traduisent l'expérience spirituelle de celui qui a goûté ce que c'est de vivre dans la justice et la confiance en Dieu, mais qui a aussi goûté l'amertume qu'apporte le fait de sortir de cette confiance et de cette justice. Et pas seulement un goût d'amertume, mais un goût de mort. Ça nous permet de relire nos propres expériences et d'en tirer du fruit. Voilà, alors je souligne une dernière fois, avant de passer au veau d'or, l'importance de l'histoire dans tout ce que j'ai développé sur les traités d'alliance. La loi trouve son fondement dans un passé, le prologue historique. Je suis le Dieu qui vous ai libéré de la servitude. La loi noue une relation dans le présent, par la liturgie, où on revit l'expérience de libération, et dans le présent où les commandements sont énoncés. Et elle définit les lignes d'un avenir, soit soit les bénédictions, soit les malédictions. Le présent de la relation ne peut donc pas être séparé des autres moments, ni de l'avenir que Dieu promet à la justice, ni de l'origine historique et cosmique de notre aujourd'hui où Dieu s'est montré à l'œuvre. Les éléments de la loi qui étonnent varient selon les époques et les lieux. Vous savez que à la fin du XIXe siècle, lorsque a commencé l'enseignement magistériel sur les questions sociales, donc il y avait de l'enseignement sur les questions sociales dans toute l'histoire de l'Église, hein, par les pères de l'Église et localement par les évêques, etc. Mais enfin, la première encyclique, donc celle de Léon XIII, j'oublie le nom maintenant. Rerum Novarum, voilà, Rerum Novarum. Le titre est tout à fait surprenant pour moi. Quand j'ai lu cette encyclique, je me suis dit, mon Dieu, que c'est rétro. Mais enfin, ça faisait pas du tout neuf. Mais à l'époque, ça faisait très neuf. Mais quand cet enseignement a commencé, il y a eu énormément de réactions d'opposition, et pas seulement en dehors de l'Église, mais dans l'Église. Tandis que ce que l'Église enseignait sur la morale sexuelle et familiale, pas de problème, tout le monde était d'accord là-dessus. Le XXe siècle, c'est plutôt l'inverse. On serait d'accord que l'Église nous rappelle l'exigence de justice en permanence. Oh, mais les questions familiales et sexuelles, le pape ne doit pas entrer dans nos chambres à coucher. Bon, très bien. Donc, selon les époques, il faut voir que nous avons des réactions différentes à ce qui ne nous plaît pas dans la loi. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, s'est répandu un athéisme généreux, promoteur des droits de l'homme. Mais il se pourrait que la bonne nouvelle qui s'annonce dans les récits d'alliance soit tout simplement celle-ci, c'est que Dieu reste concerné par la morale. Quand nous nous efforçons de vivre selon la justice, nous ne sommes pas tout seuls. Je passe maintenant à l'épisode du veau d'or que vous avez lu donc la semaine passée et au renouvellement de l'Alliance. Donc en Exode 32 ou relu par Moïse en Deutéronome 9. L'épisode du veau d'or nous enseigne que le don d'une grâce ne supprime pas la tentation pour l'homme. Sans un amour vigilant, la grâce elle-même peut devenir une occasion de chute. Je dis bien une occasion, et non une cause. La racine du mal n'est aucunement dans la grâce reçue. Il en va ainsi dans l'amitié et dans l'amour. Ils sont l'occasion de blessures plus grandes que si on n'était pas devenu ami ou conjoint. Et la colère surgit en nous bien plus avec ceux que nous aimons, ou avec ceux qui nous aiment, qu'avec les autres, de même que la nécessité du pardon. Donc quelle est cette histoire? L'épisode de métal fondu a lieu pendant que Moïse se tient au sommet de la montagne, longuement. Il est en train de recevoir les prescriptions et les plans précis de la tente de la rencontre. Donc le Seigneur lui parle longuement et décrit longuement chacun des objets de ce qui sera le sanctuaire pendant la marche au désert. Il reçoit les instructions pour le sacerdoce et toutes les instructions pour le culte. Et dans la plaine, le peuple se demande ce qui lui est arrivé. Il a besoin de Dieu. Et voilà que son médiateur est absent. Par défiance ou par impatience, il cherche un substitut à la double absence de Dieu et de son porte-parole. Il veut se donner un Dieu qui soit à sa disposition. Ce n'est pas là le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham survient avec une parole, « Va, quitte ton pays ». Il se rend proche. Mais il n'est pas à la disposition du croyant. Dans les apocryphes, Abraham détruit les idoles de son père Terah. Ça, ce sont des dieux à la disposition des hommes, les idoles, puisqu'ils se les fabriquent. Le dieu d'Abraham est imprévisible, imprévisiblement bon. Et Aaron faillit à sa tâche tout comme Adam avait failli à la sienne en présence d'Ève tentée. Aaron savait ce qu'il devait faire, mais il consent à recueillir l'or du peuple pour faire une statue de veau. Et le peuple se prosterne devant cette statue en exprimant à la fois, d'une part, ce qu'il cherche dans son insécurité, il cherche Dieu quand même, et d'autre part, malheur, sa perte de confiance dans le vrai Dieu qui a agi. Il proclame en effet devant le veau, « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse est arraché à son intimité avec le Seigneur qui lui fait connaître la faute du peuple. Dieu se présente comme pouvant répondre à l'infidélité par l'extermination du peuple entier, prêt à faire reposer tout son projet sur Moïse seul et sa descendance. Le dialogue entre Dieu et Moïse ressemble à des querelles entre parents fâchés. « Regarde ce que ton fils a fait. » Donc pas ce que notre fils a fait, n'est-ce pas ?« Regarde ce que ton fils a fait, s'il a fait une grosse gaffe. Bon. » Et le Seigneur explose et il dit « Va, descends, ton peuple s'est perverti. » Lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. La tentation, quand on est l'élu, tout le salut va passer par moi. Moïse, loin de choisir d'être désormais l'élu à lui tout seul, choisit de rester solidaire du peuple pécheur. Avec une habileté toute ingénieuse et toute aimante, il détourne le Seigneur de sa colère. Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les exterminer dans la montagne et les balayer de la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. La colère est apaisée, mais le peuple qui s'est méconduit reçoit le châtiment qui le corrige. En présence du peuple, Moïse entre lui-même en colère, brise les tables de la loi, fait fondre le veau de métal et le réduit en poussière qu'il met dans de l'eau et que le peuple devra boire pour l'éliminer. Ensuite, avec les Lévites, au creux de « ceux qui aiment le Seigneur à moi », il fait éliminer sans considération pour les liens de parenté qui ne peuvent sauver. 3000 hommes parmi le peuple. Le châtiment opère un discernement, une séparation comme au jour de la création, pour que soit gardée la part fidèle. Dieu trouve un reste, un petit reste ou un grand reste, avec lequel il peut continuer à être valablement présent à l'histoire des hommes. Je dis valablement présent à l'histoire des hommes, et non d'une manière telle qu'en voyant son peuple, on ne reconnaisse pas Dieu. Le peuple, rendu humble par son châtiment, repart. Il reçoit pour la première fois et sans aucun mérite de sa part, la grâce du renouvellement de l'Alliance. Moïse remonte sur la montagne, reçoit une deuxième fois les tables de la loi et passe 40 jours dans le jeûne avec le Seigneur. Pourquoi l'épisode est-il si important? Une nouvelle connaissance de Dieu s'en dégage. Dieu fait alliance avec des pécheurs. Et nous ferons bien de nous demander pourquoi. Quelle est la raison de cette obstination du Seigneur. Voilà, avec cette question, je clôt le chapitre sur la morale de l'Alliance et je passe donc sans davantage de transition à la morale des prophètes. Les prophètes remplissent une bonne partie de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament. Et pourquoi fallait-il des prophètes après que l'alliance ait été conclue et renouvelée, et d'ailleurs renouvelée plusieurs fois? Donc, pour ceux que ça intéresserait, je pars du livre de Jacques Goldstein. C'est un bénédictin qui était à l'abbaye de la Source à Paris. Son livre s'appelle « Les prophètes et leur lignée ». Voilà. Alors, comme introduction, je rappelle que les prophètes viennent après l'Alliance. Quand ils surgissent, ils dérangent, car ils s'adressent à ceux qui se sont habitués à une vie où il est normal que Dieu donne. Les prophètes sont la voix de l'Alliance qui s'adresse au cœur menacé de s'endurcir. Car les destinataires de leur message ont transformé le fait que Dieu donne, un fait qui est issu de la bienveillance divine, en une sorte de droit. Dieu doit donner. Dieu doit nous donner la protection, la prospérité, la victoire. Et bien qu'elle soit l'œuvre de l'amour, la voie de la fidélité à l'Alliance entraîne une confrontation dure. Elle dévoile à quel point le peuple bénéficiaire de l'Alliance peut avoir la tête dure et la nuque raide. C'est donc une étape pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur et sa loi. Parce qu'ils sont appelés, c'est-à-dire qu'ils ont été élus et envoyés, les prophètes rappellent à Israël sa vocation. Le peuple ne peut pas exister comme les autres peuples existent. C'est un peuple qui existe par vocation, parce qu'un autre l'appelle à être un peuple. Israël a bénéficié de l'élection et a reçu une mission. Quelle est cette mission? Les nations doivent s'extasier devant sa loi. Au fond, les prophètes sont comme des amis importuns qui disent « Tu ne peux pas faire ça. Tu as été appelé à autre chose. Souviens-toi. » Et ceux qui les écoutent ressemble souvent comme nous à Hérode qui entendait Jean-Baptiste mais qui était déchiré sans arriver à basculer vraiment du bon côté. Donc je passe à la section 1, parole de Dieu et prophétie. Bien, l'existence des prophètes a été bouleversée un jour par l'irruption de la parole dans leur vie. Que je vous ai lu au début pour la vocation d'Isaïe. Et cette irruption révèle la mesure de disponibilité qu'exige de nous le Verbe de Dieu. Nous en contemplons le prix dans un monde qui ne peut supporter la lumière de la vérité. Alors la spiritualité des prophètes doit rénover notre sens de Dieu. 4 points. Sa grandeur et son incompréhensibilité. Son amour, sa justice, toujours miséricordieuse, et sa sagesse, jamais en défaut. Le défi est grand. Les diatribes véhémentes des prophètes contre la société de leur temps peuvent aussi rénover notre sens des autres, comme nous le verrons plus loin, les autres qui sont le sacrement de Dieu parmi nous, la pierre de touche de notre amour pour lui. Enfin, la vue perçante dont ils furent dotés leur permettait de déchiffrer dans le chaos des événements un plan divin, harmonieux et miséricordieux. Les prophéties d'Isaïe que nous entendons pendant le temps de l'Avent, nous y croyons parce que nous savons qu'au terme vient la fête de Noël. Mais ce n'est pas seulement pour quelques semaines, pour un temps, que la parole des prophètes révèle que Dieu veut vraiment apporter la paix à notre monde. C'est tout le temps. Et dès lors, il nous pousse à renouveler notre sens de l'histoire. Pour eux, en effet, alors qu'à l'extérieur, l'histoire apparaît seulement comme le résultat de la folie des hommes. Et nous le savons en célébrant ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Eh bien, alors que de l'extérieur l'histoire apparaît comme le résultat de la folie des hommes, en fait elle est travaillée par Dieu comme de l'intérieur. Quelque chose est en train de se faire, et le prophète a l'intelligence de cette œuvre. Le salut de Dieu advient, ou s'apprête à advenir, et le prophète le voit. Le voit, l'annonce permet de s'y ouvrir. Donc, la parole de Dieu est première et les bouleverse. Alors, quelle est l'expérience prophétique ? Donc, c'est la section 2. Tout commence par la vocation. Le prophète, et ça vaut aussi pour les prophétesses, car il y en a dans l'Ancien Testament, fait la rencontre du Dieu transcendant. Pas les dieux des hommes, pas les fabrications antérieures. Dieu comme Dieu, Dieu transcendant, et il en est transformé, au point que parfois son entourage ne le reconnaît plus. Face à l'appel, plusieurs réponses sont possibles. La première, c'est le refus. La deuxième, comme Jonas, c'est la fuite. La troisième, c'est la révolte. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Et dans combien de situations de notre vie cette révolte vient avec ces questions-là ? Pourquoi ? Ou pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Mais aucune de ces réponses ne libère le prophète. La seule réponse libératrice, c'est l'acceptation. Le prophète entend la voix qui lui demande de partir, de quitter sa famille et son milieu, de suivre le Seigneur sur un nouveau chemin. Ces étapes sont transformantes. Elles créent une relation particulière entre le prophète et Dieu. Tout le vécu, depuis le refus jusqu'à l'acceptation, est une relation où Dieu et le prophète échangent leur position, ce qu'ils vivent, disons, ce qu'ils attendent chacun l'un de l'autre. Mais ces étapes sont toujours orientées à une mission qui est la raison de l'appel du prophète. Donc ce qui définit une vocation, c'est à la fois l'élection, c'est moi, pourquoi moi, je n'en sais rien, mais c'est moi, et la mission. Et les prophètes ne peuvent y répondre sans recevoir la force de Dieu. Et donc, ils ne peuvent répondre à leur vocation sans demander la force de Dieu. Car ils doivent affronter et leurs propres contradictions et le monde autour d'eux. Et parfois, les prophètes comparent leur mission à un fardeau. En se révélant, le prophète blesse. Et le premier atteint, c'est le prophète lui-même. On peut faire ici un parallèle avec les sages paroles qui accompagnent la remise de l'évangile au diacre lors de son ordination. Donc l'évêque dit ceci. Recevez l'évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Jusque-là, tout va bien. Il dit, soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez. Premier défi. À enseigner ce que vous aurez cru. Deuxième défi. À vivre ce que vous aurez enseigné. Troisième défi. On a donc la succession, lecture de la parole, donc réception de la parole, lecture de la parole, foi dans celle-ci, prédication, et conversion de sa propre vie, pas de celle des autres. La quatrième étape exprime le fruit, le plus souvent surprenant, pour le ministre de la parole, et cela vaut qu'il soit diacre, prêtre, évêque ou laïc qui exerce un ministère de la parole. Donc le prophète est atteint lui-même par sa mission. Vocation, mission, mais finalement aussi fait partie de l'expérience prophétique, sa mort. Comme beaucoup d'autres, le prophète Jérémie ne verra pas de ses yeux la réalisation de ses prophéties. Je parle ici plutôt de Jérémie. La nuit des spirituels ne lui a pas été épargnée. André Néer, donc un auteur protestant qui écrit sur le prophétisme, dit ceci. Jérémie est le prophète qui avance avec Dieu dans la nuit, dans le silence, sur une route étroite, au pied de murs gigantesques, sans lucarne, sans porte, sans issue. C'est un chemin, mais avec beaucoup d'obscurité et d'inconnu. Et au terme, c'est souvent un sort tragique qui couronne la destinée d'un prophète. Les prophètes se sont laissés conduire par la parole là où ils n'avaient pas pensé aller. Et c'est jusque dans la mort que leur vie porte témoignage de la grandeur de Dieu. Et comment se voit la grandeur de Dieu? Eh bien, Dieu donne de ne plus rien préférer à sa loi. Dieu donne de l'aimer lui jusqu'au bout. Leur destin est celui de la parole elle-même qui donne la vie malgré et à travers les refus qu'on lui oppose. Voilà donc pour l'expérience prophétique, vocation, mission et jusqu'au boutisme, si on peut dire, jusqu'au boutisme de Dieu dans leur vie. Alors j'ai dit, les prophètes viennent pour renouveler notre sens de Dieu. Ils viennent aussi pour renouveler notre sens des autres, pour renouveler le sens de l'histoire et pour renouveler notre sens du péché. Et finalement, le sens de la souffrance et de la paix. Mais donc, les prophètes et le sens de Dieu. La première chose avec la transcendance de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu caché. Les prophètes ont un sens extraordinaire de la grandeur de Dieu. Vous avez entendu dans le récit d'Isaïe, la frange du manteau de Dieu remplit le temple. La frange remplit le temple. Ça me fait penser à cette expression aussi un peu naïve comme ça, mais dans l'hindouisme, qui dit que Dieu est un quart dans le monde, trois quarts hors du monde. Dieu est tellement plus grand que ce que nous connaissons déjà de plus grand qui est l'univers. Donc sens de la grandeur de Dieu exprimé par des images. Pour eux, la réalité la plus réelle est invisible. Elle ne se donne pas immédiatement au sens. Et donc ils invitent à un renversement. D'habitude, une bonne partie du peuple réagit à la frustration en cherchant à mettre la main sur Dieu pour obtenir ses bienfaits. C'est le veau d'or. L'idolâtrie tient lieu de culte. On cherche des recettes sacrées pour s'assurer contre l'insécurité. Les prophètes, eux, invitent le roi et le peuple dans l'épreuve à rechercher Dieu, qui apparemment s'est caché. C'est pourquoi le deuxième point est la recherche de Dieu. L'invitation est récurrente dans la Bible. Psaume 105, verset 4, « Cherchez toujours le Seigneur. » Une belle devise pour un évêque. « Cherchez toujours le Seigneur. » Et pour tout le monde d'ailleurs. Dans le Nouveau Testament, cet appel est révélé comme universel, puisque dans les Actes, chapitre 17, verset 28, il est dit « Dieu a fait habiter le genre humain sur toute la surface de la terre, afin qu'il cherche Dieu, dans l'espoir de le découvrir à tâtons. » Mais il ne s'agit pas d'une quête sans fin. Jérémie 29, 13, « Je me laisserai trouver par vous. » Cherchez et trouvez Dieu. En quoi consiste la recherche de Dieu? Soyons un peu plus concrets. Eh bien, c'est d'abord obéir à sa parole. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est obéir à sa parole? C'est faire sa volonté, accomplir ses commandements et être empressé à son culte. Et le prophète le dit, donc, être empressé au culte, je le dis maintenant parce que je reparlerai de leur attitude envers le culte plus tard. Donc, en Sophonie, chapitre 2, verset 3, en Osée, chapitre 5, verset 15, en Isaïe, chapitre 58, verset 2. Donc, première chose, obéir à sa parole. Deuxième chose, être en quête de justice. Heureux les affamés et assoiffés de justice. Être en quête de justice et désirer connaître ses voies. Troisième manière de chercher Dieu, le consulter pour savoir ce qu'il attend de nous et nous efforcer d'agir conformément à son désir. Ça ne doit pas être si facile que ça. Je parlais quand j'étais plus jeune dans la compagnie, et même avant d'être jésuite, de ma joie de chercher la volonté de Dieu. Et je me souviens d'un étudiant à Louvain qui me disait « Chercher la volonté de Dieu, ouh, ça c'est pas pour moi. » La persuasion qu'on peut avoir que si je me mettais à chercher la volonté de Dieu, Dieu contrarierait tous les désirs que je porte en moi. Cette impression est là. S'il y a des athées, c'est quand même parce qu'ils ont cette image-là de Dieu. C'est que Dieu va les contrarier, non? Donc c'est pas si évident que ça de consulter Dieu. Enfin, c'est se mettre en peine pour lui et ne pas ménager cette peine. Je vous renvoie à Osée, chapitre 1er, verset 6. On peut voir ici que la morale, donc ce qui concerne les commandements et la justice, est assumé dans un dynamisme qui la dépasse. Chercher, toujours être en mouvement vers lui. Ce dynamisme est infini, comme le désir, avec une majuscule, chez le philosophe Emmanuel Lévinas. Donc, quand il parle du désir avec une majuscule, c'est l'attitude que suscite la présence des autres. Et même, il dit, l'attitude qu'exige la présence des autres. Et effectivement, quand nous sommes en présence d'autrui, nous n'en avons jamais fini avec l'autre. Il est toujours, s'il est là, il est là comme un homme, et Lévinas décrit ça comme presque la parabole du jugement dernier que nous entendrons dimanche. L'autre est toujours là dans sa nudité. Pour Lévinas, la nudité du visage est la révélation de la nudité de l'homme tout entier. Nous sommes des êtres de besoin. Et donc, quand est-ce que j'aurai répondu à tous les besoins de l'autre? Jamais. Toujours être ouvert à la présence des autres comme une présence qui sollicite. Mais ici, c'est aussi vis-à-vis de Dieu, une présence qui sollicite et qui nous laisse tout le temps être en mouvement vers lui. Et rien ne peut dispenser le peuple de cette recherche de Dieu, ni les rites, ni les pratiques. La réponse n'est pas d'ordre quantitatif, parce que quand je vous dis les besoins des autres, alors vous mettez à trembler en disant « mais moi je ne suis ni Saint-Nicolas, ni les magasins Carrefour, ni comment est-ce que je vais répondre à tous les besoins des autres ?» Ce n'est pas d'abord une question de quantité. Et Isaïe, chapitre 40, verset 18, dit « si vous vouliez répondre en termes de quantité à la grandeur de Dieu et au fait qu'il faut le rechercher, toute la forêt du Liban ne suffirait pas à faire le feu sur lequel il faut faire des holocaustes suffisants. Et tous les taureaux d'Israël ne suffiraient pas. Et donc les prophètes inversent cette impression d'impossibilité quantitative. Donc c'est Michée 6, 8. Sans doute vous connaissez tous le texte, même bien. « Homme, le Seigneur t'a fait savoir ce qui est bien, ce qu'il réclame de toi. Rien d'autre que pratiquer la justice. » aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Michée 6, 8. Alors, dernier aspect de la grandeur de Dieu que les prophètes manifestent, c'est que Dieu est fidèle. Et cela en contraste avec le peuple. Que de tiédeur et d'inconsistance et d'inconstance dans la recherche de Dieu. Qu'adviendrait-il de l'homme si Dieu était aussi changeant, aussi inconstant que lui? Mais en Malachie 3, 6, le Seigneur dit « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Le Seigneur est un rocher éternel, dit Isaïe 26, 4. Les infidélités de l'homme ne saurait lasser la fidélité divine. C'est pourquoi Jérémie 3.1 est répété en Jérémie 4.1 « Eh bien oui, si tu veux revenir, c'est à moi qu'il faut revenir, dit le Seigneur. » Le Dieu dont on ne peut se moquer, car il lit dans les cœurs, est un Dieu qui attend. Un Dieu qui nous aime plus ardemment que nous n'aimons nos souillures. Donc, après la rénovation de notre sens de Dieu, je passe au renouvellement par les prophètes du sens des autres. Alors j'ai intitulé la première sous-section, là de la section 4, « Le sacrement de l'autre ». Bon, utiliser le mot « sacrement » évidemment est une anticipation sur le Nouveau Testament. Mais il n'est pas interdit donc de trouver dans l'Ancien Testament des anticipations du Nouveau. L'importance primordiale donnée par les prophètes au comportement vis-à-vis de l'autre constitue une nouveauté. Pour nous, ça nous est devenu familier. Jésus nous a dit qu'il y avait deux commandements. Mais à l'époque où les prophètes surgissent, c'est vraiment une insistance à laquelle ce peuple qui se concentrait sur le culte ne s'attendait pas. Et il s'ensuit, c'est vrai, et c'est une autre nouveauté, un certain dégagement vis-à-vis du rite et des pratiques institutionnelles. Alors, il existe une tentation inverse de confiner les prophètes à un rôle de réformateurs sociaux. Ils insistent énormément sur les devoirs de ceux qui ont du pouvoir, les juges, les chefs, les rois, les princes, vis-à-vis du bien commun, et ils le rappellent sans cesse. Ils sont les défenseurs du pauvre, de la veuve, de l'orphelin, et comme ils disent que c'est plus important que le culte, certains voudraient ramener le rôle des prophètes à un rôle de réformateurs sociaux. Une sorte d'ancêtre du socialisme, ou à un rôle de réformateur religieux, les ancêtres de certaines formes de protestantisme. Mais en fait, ils expriment les conséquences sociales de l'Alliance. C'est différent. Ils partent de l'Alliance et ils disent « Cette Alliance doit changer la vie sociale, la vie communautaire, la vie nationale. » Et le rite, comme je l'ai expliqué déjà pour la morale de l'Alliance, permet de rendre vivante la mémoire de l'Alliance. Donc il n'est pas question de laisser tomber tout ce qui est culte sous prétexte de ne s'occuper que du bien d'autrui ou du bien des pauvres. Mais c'est vrai que les prophètes vont insister, un peu à la manière du pape François, comment l'initiative de Dieu vise le bien des hommes. Dieu ne revient pas trouver un peuple pour obtenir un culte vis-à-vis de lui. Il vient pour que l'histoire humaine, celle de toute l'humanité, soit transformée. Et transformée par un renouvellement des relations interpersonnelles. Donc par la promotion de la justice. La recherche de Dieu qui voudrait se limiter au rite ignore la vérité de l'Alliance. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, la personne handicapée, sont constitués par Dieu mémorial de ce que Dieu fit en Égypte. Il ne s'agit pas donc de s'occuper seulement de l'homme dans le besoin parce qu'il est dans le besoin, mais Dieu fait de celui qui est dans le besoin un rappel de ce que j'étais avant qu'il ne s'occupe de moi. Dieu s'est occupé de moi et c'est ce qui peut me donner la force de persévérer dans le soin de ceux qui sont dans le besoin. Faire droit aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, au nom de l'Alliance, rend présent l'événement fondateur. La sortie d'Égypte, c'est chaque fois que nous donnons à manger à celui qui a faim. Et nous le faisons au nom du libérateur. La différence entre la philanthropie et l'amour chrétien d'autrui, c'est que l'amour chrétien d'autrui annonce quelqu'un d'autre, même si c'est silencieusement, comme les sœurs de Charles de Foucault en pays musulman qui ne cherchent pas à annoncer par la parole le Dieu qui les envoie, mais qui touche les populations environnantes, ou comme avec les moines de Tibérine, savent bien qu'il y a un Dieu là derrière, un Dieu spécial, un Dieu à connaître. C'est pourquoi les prophètes sont aussi les premiers à annoncer que l'amour vaut mieux que le sacrifice. De l'Alliance découle donc que le comportement vis-à-vis de l'autre, surtout vis-à-vis du petit, est au cœur même d'une authentique vie religieuse. Je le redis, jamais encore le comportement vis-à-vis du prochain n'avait été situé explicitement, comme le font les prophètes, avant les rites et les observances légales. Jusqu'à l'apparition, au surgissement d'un prophète, ce qui était premier dans la relation, c'était le rite et les observances légales. Mais désormais, aimer autrui, c'est connaître Dieu de façon expérimentale. Car Dieu est source d'amour gratuit et créateur de valeur chez l'être aimé. Donc, nous n'aimons pas seulement ceux qui nous aiment, nous aimons et en aimant, nous révélons et nous rendons aimable celui qui est aimé. Ceux qui n'intéressent pas, ceux qui sont à charge, le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'immigré, la personne handicapée, le malade en fin de vie, ne perdent pas leur valeur aux yeux du Dieu fidèle, pas plus que ne l'avait perdu le peuple esclave en Égypte. Et leur faire du bien, continuer l'agir de Dieu, c'est révéler Dieu et c'est connaître véritablement Dieu. Alors, je rappelle donc que c'est parce qu'ils prennent le culte au sérieux que les prophètes sont si impitoyables pour toutes les supercheries dont le culte peut être l'occasion. Ainsi, n'est-il rien de négligeable en ce qui regarde le culte de Dieu ? Cependant, tout rite est dénué de signification dès lors que l'essentiel est négligé et bafoué, l'essentiel, c'est-à-dire la miséricorde, la justice et la vérité. Je cite ici Samuel, qui à ce titre est prophète, dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, « L'obéissance à Dieu vaut plus que les holocaustes ». Voilà, après cette section donc sur le renouvellement de notre sens des autres, en tant qu'ils nous permettent de connaître Dieu. Vous savez que Mère Teresa a dit « Nous ne saurons qu'au ciel tout ce que nous devons aux pauvres parce qu'ils nous permettent d'aimer Dieu sur la terre. » Nous ne saurons qu'au ciel tout ce que nous devons aux pauvres parce qu'ils nous permettent d'aimer Dieu sur la terre. Voilà, à méditer. Alors j'en viens maintenant à la cinquième section, donc renouveler le sens de l'histoire. La section sur l'autre a fait valoir que l'agir altruiste peut se faire au nom de Dieu et grâce à Dieu. Mais il y a une dimension de plus à l'agir. Il construit l'histoire. La conscience d'appartenir à une histoire est un phénomène proprement humain. L'homme est le seul être qui enregistre et connaisse le passé de son espèce. Vous savez bien que les araignées ne le font pas, mais même les singes supérieurs non plus, et même les dauphins les plus intelligents. Voici ce qu'apporte la révélation. Le Dieu de la Bible étant le Dieu vivant, est aussi le Dieu des interventions et des événements. Nous sommes parfois un peu déformés par trop d'échanges avec la philosophie, où Dieu est connu par la philosophie dans sa grandeur d'origine, si vous voulez, avant que les philosophes ne deviennent athées, ne développent l'athéisme de façon rationnelle. Mais tous les philosophes de l'Antiquité ont été touchés à un moment ou à un autre par le fait que exister renvoie à quelque chose d'autre de plus grand. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Et que la source de tout ce qui existe doit être quelque chose de formidable, puisque ce qui existe est si varié, si grand, si beau, et producteur de belles choses, à la fois naturellement, mais aussi dans les relations humaines. Et personnellement, je dois dire que c'est quand j'ai fait mes études de philosophie dans la compagnie que j'ai été soudain saisi par la grandeur de Dieu. Parce que Dieu était tellement mon ami, pas seulement Jésus, le copain sur l'épaule de qui on met la main facilement, comme ça, mais même Dieu. Depuis mon enfance, Dieu était présent à ma vie, depuis le premier signe de croix que ma maman m'a fait faire. Dieu était tellement proche que j'avais oublié que Dieu était grand, que Dieu est la source de toute chose. Et c'est la philosophie qui me l'a fait découvrir. Mais les philosophes, surtout les philosophes païens que les premiers chrétiens ont rencontrés, n'avaient pas le sens de l'histoire. C'est l'histoire biblique qui révèle que l'histoire des hommes a un sens, peut se comprendre. Et donc, ils ramènent Dieu toujours à une entité comme immuable. Il est grand, mais il n'intervient pas. Il a tout prévu en créant les choses, c'est bien, mais c'est comme s'il avait créé le monde et puis shoté dans le ballon, et le ballon tourne et on voit dans le mouvement que Dieu est encore présent. Mais tandis que pour les prophètes, Dieu est un Dieu des événements, un Dieu qui va intervenir, un Dieu qui va changer les choses. C'est pas seulement Dieu dans sa grandeur au-dessus de nous, c'est Dieu dans cette grandeur-là, mais qui accepte de pénétrer dans la pâte humaine. Alors le prophète, il sait que Dieu intervient. Pourquoi ? Mais parce qu'il a été attrapé par la peau du cou. Il a vécu que Dieu est intervenu dans sa vie. Alors trois notes caractérisent la compréhension de l'histoire qu'enseignent les prophètes et dont eux-mêmes sont le signe. Donc je vais les développer, les trois sous-sections. D'abord, Dieu est l'unique maître de l'histoire. Selon le proverbe cité par Claudel au début du Soulier de Satin, il écrit droit avec des lignes courbes. Deuxième point à développer, Israël n'est ni le centre ni le but de sa propre histoire. Il n'est que le serviteur du dessein de Dieu. Troisième point, ce dessein divin est un plan de salut universel qui, à partir d'Israël, doit se réaliser dans toute l'humanité par la diffusion de la connaissance du vrai Dieu. Donc je reprends. Dieu, unique maître de l'histoire. Pour les prophètes, l'histoire est faite par les hommes, mais écrite par Dieu. Alors quand je dis faite par les hommes, elle est aussi défaite par les hommes. Il y a des ratés. Et des ratés graves. Mais Dieu écrit l'histoire. Dieu se sert des peuples voisins pour châtier. Mais il châtie la cupidité de ses voisins à leur tour. Dès lors, ce qui est à craindre, ce ne sont pas les invasions, mais la rupture de l'amitié divine. Je crois que je vous ai déjà dit, mais enfin je me répète, que après le sac de Rome par Alaric, saint Augustin écrivait à quelqu'un qui s'en plaignait en disant que Dieu avait abandonné Rome et que certaines familles avaient perdu leur maison dans l'incendie. Il demandait, est-ce que ces familles-là ont perdu la foi ? Si elles ont perdu la foi, elles ont tout perdu, dit Augustin. Et si elles n'ont pas perdu la foi, elles n'ont rien perdu. Il faut la foi pour dire ça, mais après tout, c'est bien que la foi des uns invite à la foi des autres. Mais c'est le même défi pour l'histoire, si vous voulez. Notons ceci, c'est que dire que Dieu est le Seigneur de l'histoire ne signifie pas qu'il en est le manipulateur. Donc c'est ça notre mécompréhension qui nous fait exclure que l'histoire puisse être dans les mains de Dieu. Nous ne voyons pas que Dieu manipule l'histoire comme nous voudrions, et surtout nous ne voulons pas qu'il manipule l'histoire, et avec raison. Mais qu'est-ce que c'est de dire que Dieu est Seigneur de l'histoire ? Eh bien, c'est qu'à chaque époque, il reste libre, lui, d'intervenir, sans craindre le mal qu'il a vu faire. Dieu veut nous partager son absence de crainte du mal, n'est-ce pas ? La vraie histoire est écrite par les petits, disait un évêque. Dieu agit à partir de la place que les hommes lui laissent. Et il faut reconnaître que ce sont souvent dans les lieux où la charité est vécue que les gens reprennent confiance, qu'on découvre que Dieu est vraiment présent. Et on peut avoir une réelle espérance à partir de là. Lors de mon premier voyage en Inde, donc j'étais étudiant en faculté de Namur en sciences économiques, il y avait des voyages qu'on appelait en anglais « exposure trip », donc s'exposer à la réalité du tiers-monde, si vous voulez. J'étais assez pessimiste sur notre Occident. Et en voyant la pauvreté en Inde, je n'ai pas été tellement surpris de voir la pauvreté, on nous en avait tellement parlé avant qu'on ne faisait que voir ce qu'on nous avait dit. Mais quand même, ça n'a pas tellement augmenté mon optimisme. Et où est-ce que j'ai été changé? C'est en arrivant dans le mouroir des sœurs de Mère Teresa. Il y avait là des gens qu'elles avaient ramassés dans la rue, sur les trottoirs, dans des situations épouvantables. Il y en a un qui avait un trou dans son crâne, gros comme le poing. Il y en a un qui s'était tellement tiré sur le trottoir qu'on voyait l'os de sa jambe. Et les sœurs s'occupaient de ces personnes couchées sur des lits de camp, mais comme si c'était leur père ou leur mari ou leur frère, quoi. Et je me souviens que le bâtiment est assez élevé, hein, dans les pays très chauds, on fait ça, des bâtiments élevés avec des fenêtres assez étroites, très hautes, quoi. Et le bâtiment me semblait vraiment sombre au point de vue de la lumière naturelle, et ils étaient remplis de lumière par ces sœurs, je dis, qui s'occupaient de ces personnes comme si c'était leur frère, leur père ou leur mari. Et c'est là que j'ai découvert l'espérance. Et je suis revenu de l'Inde avec l'idée que si je retournais en Inde, ce serait pour remplir mon gros sac à dos d'espérance et venir la déverser ici en Occident, quoi. Voilà. C'est dans les lieux les plus inattendus où l'histoire a l'air d'aller le plus mal, que la lumière peut naître, il faut le reconnaître. Alors, à l'unicité d'un seigneur de l'histoire humaine se rattache en fait cette dimension de la crainte que nous avions vue à propos du décalogue. C'est l'espérance. Donc l'affirmation que Dieu est l'unique, c'est l'affirmation qu'un seul est redoutable. Et en même temps, il faut comprendre que celui qui est redoutable et unique est celui qui peut délivrer, qui peut intervenir. Isaïe 50, verset 2-3, là. « Ma main est-elle trop courte pour délivrer ?» Alors, il faut combiner ce sens de l'histoire, de Dieu maître unique de l'histoire, avec le deuxième point. Israël n'est pas la justification de l'histoire sainte. L'élection fait d'Israël un peuple privilégié, mais c'est en vue d'une mission. Oula. Nous reprendrons ça la semaine prochaine, 21h32. Alors, je voudrais demander...